Joseph Malingue, Augustin ou le maître est là. Chapitre 2, le temps des rameaux nus. Le père et l'enfant. Ces très anciennes recollections n'ont plus d'intérêt maintenant. Augustin les exhume de vieilles caisses au hasard des explorations. Il transmet dédaigneusement aux frères et sœurs plus jeunes les chevaux sans queue, mais avec pattes, les bons hommes usés, mais gardant leur tête, les livres d'enluminure salis, mais dont aucun feuillet n'est arraché, conservés par un petit garçon sérieux, plein de soins et de méthode. C'est plus tard, beaucoup plus tard, qu'il découvrit la vraie couleur de ses premières années. Invisible pour un enfant de 4 ou 5 ans, autant que pour un escarbot le plan des herbages où il s'absorbe, elle est encore très difficile à voir quand on a le double de cet âge. Augustin ne se voyait pas grandir, il grandissait tout bonnement. Par période, il totalisait, ayant le sens de l'ordre. À certaines dates symétriques, il se retournait pour voir d'un coup d'œil les mois laissés derrière lui. Les formes de pensée des classes dépassées périmaient chaque année en juillet exactement. Dès la 6e, une habitude nouvelle naquit, la marche quotidienne vers le lycée à 8 heures du matin. Une serviette remplaça le cartable. Elle passait alternativement du bras droit au bras gauche, suivant que l'un ou l'autre était fatigué. La main inoccupée ne reposait plus dans celle de son père, qui marchait près de lui. Elle pendait, libre, solitaire, n'ayant plus besoin de secours. À de tels signes se mesure une autonomie légitimement croissante. Le trajet présenta pendant les premiers jours un indiscriminable émerveillement. Puis, des magasins sortirent de l'anonymat devinrent familiers. Ce qui commença fut une papeterie au cahier neuf, reliée de l'espèce sérieuse et opulente. Suivit le bazar d'électricité et photographie. Le marchand de nouveautés vint le dernier, ralenti sans doute par ses pesants complets pour grandes personnes et le lourd sourire de ses 3 mannequins. Puis il s'usa lui aussi, quitta le tableau pour le cadre et le cadre pour le néant. Le libraire papetier tint plus longtemps que tous grâce à une ruse. Il s'avisa de se transformer. Il adopta des lignes végétales, un genre anglais et le nom de « Modern Library » avec cette apostrophe qui fait le fond de la langue. Les Anglais l'omettent par laisser-aller, par simplicité de gens riches de bien d'autres anglicismes. Mais lui n'en possédait que 3. Encore y comptait-il l'adjonction des guêtres et la suppression des moustaches. Ce modernisme mercantile perdit à son tour tout comique. Le voyage, dévêtu de charmes accessoires, appartint au genre des plaisirs purs et non mêlés. Augustin entrait dans la catégorie des petits garçons scrupuleux, studieux, dociles. Le sentiment d'une leçon imparfaitement sue, que 2 ou 3 fois par an le cours des choses le forçait d'éprouver, pesait sur son cœur comme un corps étranger. En classe, sur le banc de devant où il se tenait traditionnellement assis, il le manifestait par une restriction de volume, une immobilité écrasée, des yeux qui, n'osant se lever, craignant de se baisser, se fixaient pendant la récitation à mi-chemin entre chair et sol sur l'encrier. Il connaissait la joie spéciale des brouillons nets, aérés, qui prolongeaient dans le domaine privé celle des copies soignées. Pas de dessins parasites, de taches d'encre lourdes, d'autres lavées d'un coup de langue. Sur ces livres, une saleté faite par autrui devenait insulte, faite par lui, péché, et l'humiliation nuançait le remords. La volupté des pages blanches, des plumes neuves, du crayon de couleur frais taillé, commune à beaucoup d'enfants, était chez lui instrumentale et combative. Elle renfermait l'envie de se battre avec de futures énigmes arithmétiques ou grammaticales, C'est Navarrais à lui et c'est Castillan. Il goûtait les satisfactions de conscience tout seul, avec une fermeté silencieuse et fière qui était sa manière d'avoir 10 ans. Petit garçon qui ne sait pas jouer tant qu'un devoir reste en attente, il souffrait si tout n'était pas achevé, problème ou leçon, à point, à l'heure. Si tout n'était pas rangé avec une régularité nue, dans ses papiers, son pupitre, sa pensée. On le disait réservé et susceptible. Des reproches le bouleversaient pour des jours. Il se sentait perdu, marqué devant l'univers. Il était l'enfant qui écoute, avec une attention froidement dédaigneuse, une leçon annonnée, un thème de balourd. Avec souffrance, une interrogation que le maître laisse par lassitude, inférieure à l'explication dont elle dérive. Il ressuscitait quand commençait la leçon nouvelle. Il respirait à plein poumon de l'air neuf. À certains moments précis des horaires, parcourant l'un derrière l'autre sous l'oppression du censeur de longs couloirs en ciment losangés, les sixièmes entraient à la file indienne dans une classe fraîchement balayée, ses 8 d'arrosage encore noirs. Ils trouvaient le professeur debout, immobile, la figure conventionnellement solennelle, mais le ventre pacifique au-dessus d'un pantalon impossible à solenniser. Ces moments illuminaient l'enfant comme une rentrée dans la lumière, le retour vers une grave amitié, vers un protecteur. Une belle explication comprise lui apportait une multiple joie, aigu plaisir d'une énigme résolue, satisfaction de cultivateur se promenant dans de beaux champs récemment achetés, bien à lui, envié des autres, et aussi une certaine émotion plus vaste, moins matérielle, faite de domination intellectuelle et de fierté. Les vérités générales de type oratoire, exprimées aux enfants par de vieux hommes idéalistes, chargés de famille, pauvres et ingénus, versaient vraiment sur cet enfant tout ce qu'elle recèle de suc nourricier et d'antique magnificence. Bien des petits garçons semblables, tenant, comme on dit, la tête de la classe, sont chaque année remarqués par les proviseurs au début d'octobre, dans le soleil pluvieux des rentrées. Rien n'eût eu distingué Augustin, mais, de plus, il avait son père. Ils se comprenaient tous les deux très profondément, très au-delà des mots. Ils travaillaient ensemble le soir pendant les 2 heures délicieuses logées entre 5 et 7, pour eux seuls. Le petit prenait l'habitude de juger lui-même du fini de son explication dans le De viris, de la mécanique certitude de sa leçon en grammaire latine, à peine dirigée et guidée par le coup de pouce paternel. À l'heure de la veillée, de 8 à 9, comme chez les grands, tout devoir fait à plein, toute leçon maîtrisée, une ingéniosité dont le petit garçon ne se rendait naturellement pas compte, abaissait au niveau où il pouvait les cueillir, à l'aise et sans fatigue, les fruits d'un verger prodigieux. L'enfant, sentant parfois l'envie d'embrasser l'arbre, se retenait de jeter autour de lui ses petits poignets à cause de la gravité de ses 10 ans. Il ne se retenait pas toujours. Un sourd et fort amour gonflait le père d'un enivrement que cachait son visage et dont éclatait son cœur. « Cet enfant, vous êtes une joie ?» interrogeait le collègue agrégé de grammaire. « Une grande joie !» répondait l'autre, de l'air brusque, hâtif et confus, dont on mange un gâteau qu'on ne partagera pas. Les classes passèrent ainsi dans un enchantement. Un poêle à charbon, trapu, gris cendre, immobile comme un chat de foyer, portait sur sa tête plate une casserole d'eau près de l'ébullition. Par les joints des fenêtres sifflaient les hivers. Le poêle suscérait sa petite chanson méditative, entière, dans leur tendresse et leur solitude. Il y avait sur les murs quelques photographies d'art grec, acheté non pas autrefois sur la Tromasse Bourse d'agrégation, mais au cours d'un séjour à la Bibliothèque nationale, nécessité par la thèse, exprès pour les soirs que le père comptait passer avec son fils. 8 figures choisies avec une certaine discrétion dans le nu et ramenées entre deux cartons au fond de sa petite malle plate, ce n'était pas un accessoire immédiatement utile, même pas une prévision, c'était un devancement de bonheur. Sur la cheminée, au pied de la pendule réveil, un cadre de photographie abritait un assez vieil homme à longue barbe, grand air d'autorité humble, rude endimanchement d'habit noir, le grand-père paternel, instituteur des environs de 1880. C'est tout ce qu'Augustin en apprit jamais. Pas de grand-mère, perdue, dissoute, inofficielle, pauvre ménagère des anciens temps qu'on n'avait pas songé à capturer pour la postérité dans le sillage de son époux. La famille, si claire du côté maternel, encore qu'Augustin fût trop jeune pour s'en rendre compte, remontait dans l'autre ligne à des régions fort brumeuses où disparaissait toute trace. De quels écrasements sociaux, de quelles déficiences alimentaires était venue jusqu'à son père à travers une longue route cette nervosité rétractée, cette appréhension des pesants corps humains et la fuite vers des joies de pensée pure? Augustin se le demanda souvent par la suite. Vers la fin de la quatrième, il y eut un secret entre eux. Aucun d'eux ne le dit jamais à l'autre, mais il savait qu'il le savait. Une célébrité venait à M. Méridier de la distinction de son enseignement autant que de l'indiscipline qu'il tolérait dans ses classes. Elle le coupait de tout avancement. Elle était l'excuse des inspecteurs généraux pour avoir laissé dans son obscure province ce professeur de seconde, maladif et traînant sur sa thèse, d'une pénétration, d'une finesse et d'une mesure hors de proportion avec ses besoins professionnels. Cette indiscipline restait d'une année à l'autre comme une odeur. Elle s'incrustait à la salle, au mur, au mobilier, autant que les noms des galopins gravés sur leurs pupitres. Des classes qui partaient à celles qui venaient, la tradition en passait comme d'un plaisir sans risque, une activité saine et libre, une sorte de devoir. Le maître finissait par ne plus donner ses leçons qu'à 3 ou 4 élèves, rassemblés sur le banc de devant, futurs lauréats de concours, précieusement recueillis par le professeur de première. Il multipliait pour eux les remarques de la pédagogie la plus techniquement intelligente. Le reste bruissait, se battait, protestait, avec des cris de dents arrachés quand le rythme des dictées de devoirs leur paraissait trop rapide, lisait des romans à 35 centimes, se passait des illustrés vicieux. Un quart d'heure avant le tambour des fins de classe, tous criaient « C'est l'heure, monsieur, c'est l'heure !» Parfois, au sein d'un bruit général anonyme et désintéressé, sans autre but que lui-même, comme une œuvre d'art, une insolence gratuite partait en météore. La mise à la porte prononcée par le maître exsangue, dont les bras tremblaient, était discutée, démentie, confirmée, et enfin rapportée au sein d'un bourdonnement collectif émis par le nez, bouche close, gonflant, nuancé, musical, comme un effet de cœur russe. En général, après des incidents de cet ordre, le professeur tâchait d'essuyer de son mieux sans la montrer, en se retournant, s'il le pouvait, vers le tableau noir, une sécrétion lacrymale collant à son lorgnon. Une année, la classe fut le théâtre d'une scène célèbre. Un fort gaillard de 19 ans, entré au jour de l'an, vocation tardive des études classiques, s'installa sur le fameux banc de devant. Rude bûcheur cantalien qu'agaçait ce bruit, il commença par tourner vers le fond de la salle une menaçante figure boutonneuse. Puis, se levant sans permission, avec une simplicité d'homme, concentré, voûté, énorme, Il abattit d'une main adulte sur la plus insolente tête à claque une gifle massive et solitaire dont l'effet dura 3 mois. L'élève, le hugueur Marcel, rencontrant Augustin dans une courte récréation d'interne et d'externe mêlée, lui cria un jour d'une rauque voix d'adolescent qui fait l'homme « Ben, mon vieux, ce qu'on l'a chahuté, ton paternel, si la vache s'était pas amenée. » La vache était le censeur. Augustin, élève de troisième, n'avait pas encore 13 ans. Il portait un sarrau noir bien tiré à 3 plis, une ceinture de cuir, un col marin blanc pur et dédaigneux. Sa peur de la brute le faisait trembler. Pendant ce temps, des chiens galeux devaient aboyer aussi dans la rue, fit-il, s'exerçant à un beau mépris tranquille et dangereux. Puis il attendit le coup de poing. Au pied d'un acacia misérable, des papiers déchirés souillaient la terre parmi des trous à billes et des croutons. Le hugueur Marcel, sans plus penser à ce qu'il venait de dire qu'à la réponse, planta sans malice dans un chanteau de pain une mâchoire inférieure féroce. Le mépris d'Augustin s'en accrut. Sur le seuil de la classe, M. Méridier apparut enfin en compagnie du censeur. La poignée de main qu'ils se donnèrent jeta par terre la vieille serviette et le vieux parapluie, solidaires l'un de l'autre dans la même gaucherie. En les relevant, Augustin vit la barbiche jaune et blanche, le pan miroitant du lorgnon, le visage de tendresse et de moquerie triste. Il prit le bras de son père d'un air joyeux. « J'ai encore eu 10 sur 10, mon papa, pour le thème. » Ils continuèrent de commenter le beau thème si travaillé, extrait du sermon sur la mort, pour lequel son père avait suggéré les passages du De Officiis, dont il fallait s'inspirer en quelques endroits. Mais dans le temps même où ils se parlaient, l'enfant se reprochait d'avoir précisément choisi la banalité qu'il ne fallait pas dire. La note 10 sur 10 lui était tellement habituelle que ni lui ni son père ne la remarquaient. De même, n'eût-il pas dû ressusciter l'appellation enfantine « mon papa » qu'il n'employait plus. Ainsi, comprirent-ils l'un et l'autre en même temps que cette conversation avait valeur de baume, et ils s'en allaient tous les deux, l'enfant doucement gai comme auprès d'un convalescent, le père vaguement protégé. Sa famille ressemblait à toutes les familles de petite bourgeoisie auxquelles appartiennent les agrégés des lycées provinciaux de catégorie modeste. Le chiffre des traitements, l'échelonnement des naissances, les mœurs familiales héritées composent autour d'eux un déterminisme d'humilité qu'ils supportent en général avec stoïcisme. Ils ont même le don de ne pas le voir, comme d'autres s'endorment quand ils le veulent. L'hémisphère supérieur du monde baigne dans la pensée pure, la liberté, 30 siècles d'idées générales, d'Hésiode à Bergson. Ces choses sont, comme chacun sait, le tout de l'homme. Dans l'hémisphère inférieur, logent quelques petites nécessités comme manger, se vêtir, vêtir et nourrir les siens. Elles forment le surcroît donné avec le reste à toute âme qui sait les mépriser. L'appartement assumait l'aspect spécial des logis à nombreux enfants. Dans les jours d'hiver, le linge des tout-petits séchait au grenier, pincé à des cordes tendues d'un mur à l'autre. La lessiveuse bouillonnait dans la cuisine, près du repas en train de cuire. Madame Méridier surveillait les deux. La grosse Catherine rinçait le linge dans un autre coin de la même cuisine. Magnifiquement massive, maussade et déhanchée, elle l'arrachait à la lessiveuse, l'égouttait, le tordait, le disposait en rond dans une panière d'osier. Madame Méridier l'aidait en ses besognes. Toute seule, ensuite, la Catherine le portait contre son flanc robuste jusqu'au grenier qu'elle ébranlait de sa marche plantigrade. Il y eut des années où bronchite, rougeole et coqueluche s'installèrent dans la maison dès novembre et n'en partirent qu'à l'Ascension. Des pleurs fiévreux occupait la journée et se prolongeait dans la nuit. La pauvre maman, ayant dormi 3 heures, se trouvait toute levée le matin pour les toilettes, les déjeuners et les départs. La grosse Catherine envoyait au lait et au pain, denrées requérables que les fournisseurs ne portaient pas, procédait à ce ravitaillement avec une inexcitable lenteur bovine, aucun incident domestique ne mordant sur son cuir. Au retour du lycée, le père entrait à lents pas tristes. Il heurtait les chaises, renversait les pots, traînait partout sa gaucherie et sa bonne volonté. Il finissait par rester immobile, abaissant sur les petits lits des yeux de couleur invisible et plissés de détresse, et rien ne rappelait plus la liberté, la pensée pure, ni aucune de ces choses qui sont le tout de l'homme. Seuls les dimanches surnageaient sur ces semaines troublées. Mais tout ce qui n'était pas de stricte obligation, premier vendredi du mois, cérémonie du tiers-ordre, fête secondaire comme le 8 décembre ou la purification, perdu dans le prestige des grandes fêtes, s'écoulait sans laisser sur la rive l'apport coutumier de messe et de communion, fixe bouée sur la fuite des jours. Sentant gauchir par place le cadre de son existence, la pauvre maman disait « Je ne sais plus comment je vis ». Puis ces crises passaient, les jours cessaient d'être mouvementés, redevenaient des jours sans histoire qui ne font point parler d'eux. Par la force des choses, Augustin relevait surtout de la surveillance paternelle. Mais la vigilance de sa mère, capitale en tout ce qui concernait les choses matérielles, s'étendait de plus aux terres religieuses, exploitées par elle en faire-valoir direct. Une inexplicable solidarité de temps et de lieu associait les prières aux repas. Un régime d'union personnelle unissait les deux royaumes sous la même souveraineté. La prière du matin, récitée, ainsi que jadis, entre la cuisine et la chambre à coucher, était hâtive, légère, aérée et comme mousseuse, à goût de chocolat et de départ. Elle vous retenait au lacis des actes et des commandements, tandis qu'on se jetait déjà dans la grande journée neuve. Le Benedicite de midi se mêlait dans les arrière-gorges aux premières émissions des choux et du bouillon gras. Le père y assistait d'une adhésion tacite, sans se signer, sans interrompre la lettre qu'il lisait ou son tambourinage sur la nappe. La prière du soir, grave et recueillie, se disait dans la salle à manger, devant une table débarrassée, parmi des heures confuses qui tenaient du plein jour par le travail qu'on y brassait encore et de la nuit par l'apaisement qu'elle conseillait. Elle admettait deux ennoblissements, d'abord le silence de l'examen de conscience, pendant lequel on réentendait la pendule, puis l'odeur de crypte du De Profundis. Debout, immobile, tenant de l'intellectuel et du publicain, M. Méridier exprimait par son attitude, dans une mesure qu'il ne définissait pas, que nul ne définirait pour lui, des sentiments religieux baignés de métaphysique et de mélancolie, mais qui faisaient, pour se mêler à la pratique quotidienne, autant de manières et de cérémonies qu'une hypostase de Plotin. Diffuse tout le long de la semaine, cette vie religieuse se concentrait pour Augustin en deux moments essentiels, la confession du samedi et la communion du lendemain. Sa mère et l'abbé Amplepuis, le vicaire qu'il avait préparé à la première communion, s'étaient entendus sur cette périodicité. Il n'existait pas dans la petite ville d'autres œuvres de garçons que les patronages populaires. De son côté, le petit séminaire était censé suffire à la formation religieuse des jeunes bourgeois. Rien ne s'appliquait exactement à Augustin. Toute sa vie morale reposait, outre l'exemple familial bien entendu, sur les sacrements hebdomadaires. L'abbé insistait sur leur régularité, en joignant par le bout des doigts des mains velues et blanches où logeait une force rurale désaffectée. D'un autre enfant, on exigerait qu'il y soit fidèle, mais de lui. La phrase non terminée pendait sans toucher terre. On ne manipule pas Augustin comme un gars de patronage par un ton militaire et des bons points. Moins encore par intrusion et contrôle. Pas davantage avec l'onction conventionnelle et les fleurs de rhétorique de trop vieux herbiers. Madame Méridier marquait non pas une indécision ni un doute, mais une simple hésitation tactique. Augustin est d'une bonté délicate, craignant de faire de la peine, un peu difficile à prendre, un peu indépendant. Elle cherchait ses mots, voyait aussi clair que son mari, parlait plus mal. Elle finit par se rabattre sur ses phrases à lui. Son père trouve qu'il obéit moins qu'il n'acquiesce et ne consent. Il dit aussi qu'il s'est bien méprisé. Enfin, dit l'abbé, qui se reconnaît moins compétent qu'elle sur les voies et moyens, mettez une transition insensible entre le moment où il consent et celui où il viendra de lui-même. Je voudrais qu'il prenne l'habitude de venir me voir au confessionnal les samedis vers 4 heures ou 4 heures et demie. Il aura le temps de quitter ses camarades, d'éviter les questions, n'est-ce pas? Et même de rentrer chez lui, de goûter. Il n'attendra pas. Je ne l'ennuierai pas. Et la communion des dimanches ira toute seule. Ainsi se tissaient les filets innocents. Le dimanche matin, l'arrangement des assistances à la messe s'emboîtait comme un jeu de patience. Entre la grosse Catherine qui se levait tôt, M. Méridier qui se levait tard, Christine, puis Suzanne, qu'on conduisait aux Ursulines parce que l'omnibus du couvent ne roulait pas le dimanche, une interminable grand-messe à contourner, l'enchevêtrement des déjeuners et des soins enfantins, il fallait trouver les cols carrossables et les passages justes. Comme aucun office n'avait lieu à 7 heures et demie, l'horaire refoulait à 8 heures la messe de communion d'Augustin et de sa mère. C'était une belle messe bruyante d'une vulgarité généreuse, celle des patronages et des catéchismes. Il y avait foule. Augustin et Madame Méridier contemplaient près du porche les bousculades de la sortie. Pendant les vacances de son pensionnat, Christine les accompagnait. De vastes yeux en charbon noir, grands ouverts dans sa figure ronde, des mains d'écolière gercées en plein mois d'avril, un paroissien gonflé par les images de première communion de ses petites amies, elle attendait, tassée contre sa mère. Ses deux nattes pendaient devant son corsage, encore mouillées des ablutions du matin. Avant de quitter la maison, Augustin les tirait, par pure malice, juste pour entendre la protestation habituelle « Ah, laisse-moi, toi !» pour voir la petite moue délicate et susceptible qui s'arrange si bien de cette réserve qu'on se donne dès 7 heures du matin, les jours de communion. Des abbés en surplis roulaient dans l'allée centrale comme de gros ballons blancs. L'abbé Amplepuis voltigeait entre l'autel et le portail. Quelques réclamations de parents d'élèves l'accrochaient enfin au milieu de l'église, le temps de faire prendre en instantané ce sourire de candeur triste, de sincérité nullement naïve, qui conduisait à travers son visage préoccupé et ses dents misérables, tout droit jusqu'à son prudent et simple cœur. Tout ce qui pouvait se dire de prière était noyé dans des cantiques d'enfants. Un court répertoire de 6 ou 7 airs faisait le tour de l'année liturgique. Au fête de la Sainte Vierge, 80 galopins sur une mélodie curieusement mélancolique et désenchantée assuraient qu'ils la verraient un jour dans la patrie. Puis il se consolait subitement sur la note finale. Cette mystique langueur, confiée à des gosiers, ressemblait à de l'essence de rose versée dans des seaux de fer blanc. Mais d'autres airs, plus mâles, revenaient tous les dimanches précédés de références et d'introductions. Prenez page 145, nous voulons Dieu, criait l'abbé. Il avait juste le temps d'ouvrir les vannes et de sauter en arrière. Une cataracte sonore déferlait dans l'abbatiale. Chant rugueux et jeunet, d'une rusticité pleine d'enfance, leur son cru semblait la matière première solide et de bonne qualité dans laquelle plus tard on ferait des voix. Une musique d'enfant de troupe courait partout, mordait partout, prenait son élan et sautait aux clés de voûte en quatre coups de talon. À ce zénith, elle tournait vers tous les secteurs de l'horizon, un petit visage brutal et résolu. Elle lançait des défis. « Nous voulons Dieu, c'est notre Père !» laissait une seconde pour répondre et brandissait des flammes oranges. Aucun ennemi ne se présentant, elle retombait d'un seul bond sur le sol, victorieuse et démobilisée, criait « Nous voulons Dieu, c'est notre roi !» et expirait dans son triomphe. Augustin suivait malgré lui le foisonnement de ces jeux sauvages. Ils encombraient la messe du Confiteor à l'épître, s'interrompaient à l'évangile, lâchaient une nouvelle volée après le sermon pour enfants, fermez vos livres, croisez les bras. L'heure du recueillement commençait enfin à l'élévation, continuait au pater, s'affirmait au domine non sum. Les enfants pouvaient reprendre leur chant, l'orgue donnait ses mesures pour rien, les abbés criaient des numéros de pages. Rien ne troublait pour Augustin la solitude enfin reconquise. Toute cette messe de patronage bruissait autour de son cœur comme pluie de nuit sur des vitres. C'était le moment des actes avant la communion. D'effrayantes audaces métaphysiques sous leur onction fénelonienne circulaient incognito, les yeux baissés, vêtus de lin. Des petits garçons, d'une simplicité docile, répétaient par cœur des thèses transcendantes mises à la portée de petits garçons. En vérité, je vous le dis, si vous n'êtes comme l'un de ces petits. Il arrive à Augustin de sentir, en lui, hors de lui, pas plus que saint Paul, il ne sait, des minutes singulières d'absence d'effort, de total repos, de grand calme, morceaux privilégiés dans l'immense étoffe du temps. Il éprouve comme un désir sans poussée et sans pointe, vivre docilement blotti, serré contre les siens, et aussi dormir la fenêtre ouverte en une pure nuit d'été. Il n'en sait pas plus long, c'est un écolier de 12 ans. Ainsi se poursuivait la formation morale de cet enfant, pas très semblable aux autres, réservé plutôt que timide, assez distant, froid, tendre, très réfléchi, très volontaire. Peu de souvenirs précis se détachent de ses premières années. Un chuchotement général, formé de 1000 superposés, compose un puissant murmure de monotonie heureuse. Ce sont des jours qui se ressemblent. Leur série tout entière se courbe vers le futur. Une providence maternelle laisse ce petit dans le repos. Vers la fin de la troisième, une secousse l'en tira. Malgré son horreur pour les cours de récréation, Augustin s'était promis d'y faire le plus souvent qu'il pourrait l'effort d'y attendre son père. Un samedi soir, M. Méridier fut en retard. La cour des moyens contenait des élèves de troisième, de seconde et de grands garçons de la section D, où l'on ne fait pas de latin. Rustres robustes, plus hauts de la tête que leurs camarades classiques, ils étaient fort respectés par eux. Comme à toutes les récréations de 4 heures, le concierge offrait sous les préaux de vieux bâtons de nougat des biscuits secs d'un rose chimique et des tablettes de chocolat meunier, papier jaune et goût fin, en bel ordre sur une toile cirée. De grands gaillards à galoches, en longue blouse noire que l'absence de boutons rendait voltigeante, longeaient les murs en discutant. Dans un coin, trois arbres mouraient, trois acacias débiles, dévêtus d'écorce et tatoués de noms. Dans leur partie hors d'atteinte, l'anémie des grappes poussiéreuses faisait penser à d'autres lieux où des arbres normaux poussaient dans de la terre véritable et où c'était l'été. Un maître d'études errait très loin au bout de quelques flottantes trajectoires. Augustin aperçut un groupe immobile d'élèves, les uns debout, d'autres assis sur un petit banc de pierre, d'autres vautrés à même le sol, à l'ombre des troncs d'acacia. Un de ses camarades de troisième s'y trouvait, l'indolent et doux Vaton, qui lui était sympathique. La conversation continua sans que le nouveau venu parût l'interrompre, et Vaton accrocha son bras. C'était une causerie saccadée, coupée de silence, pleine d'allusions et de sournois sourires. Augustin fut long à comprendre ce qui s'y agitait, jusqu'à ce que l'œhugueur Henri, frère de l'œhugueur Marcel, celui qui avait appelé le censeur la vache, dédaignant toute expression approchée et soucieux de n'offrir à la vérité que des lignes droites, prononça dogmatiquement « Eh bien, moi je te dis qu'elle aurait marché. » Son voisin se releva lentement du sol, haussa un genou et s'y appuya le coude, dans l'attitude des statues d'angle au fronton grec. Mélancolique une seconde, le temps de sentir l'irréparable, le hugueur Henri regretta « C'était la plus batte !» De rudes mots d'obscénité et d'excréments éclatèrent au soleil et, ainsi exposés en plein air, perdirent leur caractère d'émission verbale, churent en masse molle et fumèrent comme leur modèle. Le genre de confidence familier aux chambrées flottait au-dessus de ses corps vautrés. Il y prenait un air supplémentaire de grêle vilanie, tenant à leur jeunesse. Le hugueur Henri s'était spécialement distingué. Il avait essuyé la joue de la môme avec sa manche, mon vieux, comme ça, avant de l'embrasser. L'élève Dupérier, surnommé « Ta douleur Dupérier », se borna à dire « flûte » par manque d'imagination. Mais Vaton, plus personnel, brûla l'étape de l'étonnement, s'éleva d'un bond au lyrisme. Tordant les mains, les yeux au ciel, il déclamait d'un air vorace « Une fille de joie, une fille de joie !» et semblait chaque fois reprendre à la même assiette une nouvelle lichée de ragoût. Certes, quelques connaissances de ces choses avaient pénétré jusqu'à Augustin, à travers cette éducation singulière, intellectuelle, familiale, attentive et retirée. Certaines causeries de camarades, des lectures de rencontres, l'étalage des journaux illustrés à la Modern Library, fille saumon clair et officier rouge vif, lui avait appris en gros le sens des conversations dites déshonnêtes. Elle s'apparentait à la saleté physique, à la grossièreté de tenue et de propos, souveraine sur les cours du lycée qui laborait pour cela. Il s'en écartait comme d'une ordure matérielle dont ne parlent même pas les gens bien élevés. Or, subitement, voici qu'elles changent de nature et de puissance, deviennent des palpitations, des bouffées, une sorte de chaleur ténébreuse, des chants de chasse dans la nuit. Lorsqu'Augustin ne peut plus se dissimuler qu'enfin il comprend, il reconnaît qu'il avait compris depuis longtemps déjà, presque dès le début, quand Vaton lui serrait le bras. Cette lumière rétrospective incendie les demi-ténèbres où se réfugiait sa honte. Des quartiers de la ville jamais mentionnés, Des ruelles au nom bizarre et les coups du menton de l'œil-gueur Marcel suscitent une espèce de curiosité et d'allèchement atroce, nouveau jusqu'alors dans son cœur. Des détails luisent à travers la fumée, des portes rouges ou vertes, de grosses présences déchevelées, une odeur d'eau de Javel et de papier d'Arménie, venue là comment, que toutes ces choses sont confuses et désespérées. Un brusque effort l'enleva au bras qui le maintenait, tenta de l'arracher à d'autres contacts en serrant. Autour de lui, des timidités riaient. Témoin de la lutte, le hugueur lança sur le groupe une invitation gouailleuse, argotique et obscène, qu'Augustin comprit par les gestes. Soulevé de terre et courbé pour un bond, il criait « Tiens-le donc !» et invoquait Dieu. La victime attendait, tourbillon de mépris et de peur dompté, d'une impassibilité éperdue, comme s'il dépendait de sa volonté de rester ou de partir. Un haut gaillard, déjà barbu, méprisant et désabusé, émit d'un ton traînard les mots libérateurs, calma cette sorte de flot. « Fous la paix à ce gosse, c'est le petit de l'arme à l'œil. » Ainsi, Augustin connut à la fois qu'il était sauvé et le surnom de son père. Il se rappela être parti avec une lenteur affectée pour garder les apparences et parce que la secousse lui coupait les jambes. Il était extraordinaire qu'autour de lui rien n'eût changé, même sol souillé, même saleté de la terre, même fissure noire dans les murailles, même incurie d'entretien. Entre les hauts murs, un ciel souffré, comme dans les livres de géographie au chapitre de Simoun. Ainsi le pauvre enfant s'en allait-il après cette initiation inattendue et irrévocable. Évidemment, il manquait d'humour, de légèreté, d'ironie. Il exagérait le sérieux des choses, il ignorait l'élégance de l'immoralisme et l'efficace des apparences nonchalantes. On lui avait épargné, bien à tort sans doute, la contre-éducation spontanée des collectivités d'adolescents, libéralement dispensée par les préaux de lycée aux jeunes occupants qui s'y ébattent. Il est de tradition, sur les cours d'internat, que des garçons de 12 ans puissent commenter les réalités physiologiques et les manipuler, bien avant que leur soient ouverts les développements sentimentaux de l'adolescence. C'est la forme que prend chez ces emmurés l'effort vers la lumière et vers la vie. Les trains emmènent, au début des vacances, des compartiments pleins de petits chanteurs. Ils entonnent de hideux refrains de caserne et croient s'acquitter de quelques fonctions héroïques, libératrices et hardies. L'État éducateur leur a certainement dit ce qu'était théoriquement l'héroïsme, la hardiesse et la liberté. Il a fait peu pour en munir leur âme. Leurs couplets traversent les champs, lors de la Pentecôte, dans la première verdure des moissons, comme dérogation satanique. Augustin continuait son chemin, raide et empesé de honte. Tout l'obscène, image et visage, repoussé d'un violent effort, rentrait, forçant des portes vaines. Il fallait le chasser encore d'une énergie qui le lassait. Aucune culpabilité positive, aucune responsabilité, rien de commun avec le remords, mais un poids sur le cœur, un sentiment de complicité nauséeux et l'envie de mourir. La fontaine Renaissance, la tour de l'horloge, la façade du tribunal, la visitation conservaient leur air de choses pures, et rien n'était changé des sentiments qu'elle respirait le matin même. Par-dessus le mur bas de la rue au Prémontré, bordé de pensionnats et de couvents, foisonnaient, en puissant feuillage, les poudres de verdure de l'avril passé. Un des trois porches de l'abbatiale ouvrait une grande bouche noire. Tout le tumulte antérieur s'arrêtait là, mourait là, contre ces choses sereines. Il était 5 heures du soir. L'enfant pénétra dans la cathédrale avec brusquerie et tranquillité. Si son père avait pu le voir et comprendre, il aurait sans doute répété les mots qui étonnaient Madame Méridier. « Cet enfant obéit moins qu'il n'acquiesce. » Et aussi, « ce petit s'est assez bien méprisé. » L'abbé Amplepuis confessait dans la deuxième chapelle du côté de l'épître. Deux ou trois enfants attendaient. Une dame chercha à se faufiler parmi eux, les devança vers les compartiments latéraux. Mais l'abbé veillait du fond de sa nuit. Le confessionnal s'ouvrit. « Les enfants d'abord, s'il vous plaît !» Le ton était sec et pas commode. La dame se retira lentement, comme de son plein gré, comme si elle avait réfléchi et que l'effet de la voix fut non pas de lui intimer l'ordre de partir, mais de susciter chez elle cette décision spontanée de bouger qui caractérise la girouette de Bayle. En se retirant, elle laissa choir à ses pieds le coup d'œil offensé qu'elle aurait eu dans un sentier sale. Peu importait, l'enfant était calme, maître de lui, lavé déjà. C'était une belle nuit, attentive et vaste, peuplée d'odeurs de cave, d'arrosage et d'encens. Augustin se demandait chaque fois comment l'abbé faisait pour reconnaître ses pénitents dans cette double obscurité de la cathédrale et du confessionnal. Ombre particulière creusée au cœur de la grande nuit. Il tutoyait Augustin d'emblée. Il était tout simple et naturel. La conversation avec ce fantôme se distinguait sans doute par le sujet de ce qu'elle eût été dans la rue ou à table, mais nullement par le ton ou par la bonhomie, pas plus que n'était solennisée la respiration, la toux ou l'eau de botto dont l'abbé se lavait la bouche. C'était bien commode. On finissait par croire que les péchés aussi perdaient leur belle toilette intime et ténébreuse, endossaient le veston de tout le monde, marqué de taches et d'accrocs, la livrée humaine qui a tant servi. Derrière l'énorme hôtel, à travers un espace scandé de colonnes, un bourdon d'orgue continu, à l'extrême limite du grave, s'exerçait pour le lendemain. De subits jets de son, ternes et dévernis, le piquaient parfois pour le réveiller. « On ne peut empêcher, disait l'abbé, les choses sales de causer un certain trouble. Nulle trace de péché là-dedans. Qu'Augustin remercie Dieu de l'avoir gardé honnête, pas comme le pharisien, mais comme un publicain de bonne volonté. De belles choses paternelles, humblement calmes et toutes droites. Ainsi connut-il un degré de plus dans sa maturité d'adolescent, le bienfait indirect d'une épreuve boueuse, une forte alliance entre son intégrité morale et son catholicisme natal, une sorte de propreté avertie, assez hautaine et comme un mépris documenté. »